Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Kate Clark est une des meilleures connaisseuses de l'Afghanistan. Elle est l'auteure d'un rapport publié par Afghan Analysis Network intitulé « Kafka à Cuba ». C'est une étude très documentée sur les détentions de citoyens afghans à Guantanamo, reposant essentiellement sur la consultation des dossiers militaires et des documents d'accusation américains. Plongé dans la lecture de ces milliers de pages, vous faites entrer, écrit Kate Clark, dans un monde peuplé d'accusations vagues, reposant sur des oui-dire ou des rumeurs, de preuves secrètes ou imaginaires, de grossières erreurs factuelles, des traductions approximatives ou erronées et des témoignages obtenus sous la contrainte ou la torture. Le rapport publié en 2016 détaille le cas de 8 Afghans qui comptent parmi ceux restés le plus longtemps prisonniers dans la base américaine. Certains y sont encore, d'autres ont été transférés aux Émirats Arabes Unis. L'un est vendeur de fleurs en plastique, l'autre gardien, un autre tient un bureau de change, enfin tenait. Il y a un homme qui était épicier, un vendeur de voitures aussi. Ils sont tous accusés d'appartenir au réseau Al-Qaïda, d'être pourvoyeurs de fonds des talibans ou encore d'appartenir à une cellule d'artificiers d'Al-Qaïda. Ils ont tous, peu ou prou, fait 14 ans de prison, donc à Guantanamo. Et les renseignements qui les ont conduits là contiennent, redit Kate Clark, des erreurs patentes, multiples et évidentes. Plusieurs détenus ont été dénoncés à tort, souvent par des Afghans locaux qui souhaitaient se venger d'ennemis personnels ou de circonstances, ou par des opportunistes sans scrupules qui voulaient empocher la récompense promise par les Américains en cas de capture de talibans ou de membres d'Al-Qaïda. Aucun de ces 8 hommes, enfin, n'a été capturé directement sur le champ de bataille. 6 ont été livrés à l'armée américaine par les armées pakistanaises ou les services secrets, ou bien par l'armée afghane. Et 2 ont été arrêtés sur ce genre de dénonciation farfelue. Le ministère de la Défense américain, qui a reçu le rapport avant sa publication, n'a pas souhaité faire de commentaires, mais vous pouvez en lire l'intégralité, si vous le souhaitez, sur le site Afghan Analysis Network. Il est édifiant. En attendant, plus près de chez nous, au coin de la rue, il y a aussi des erreurs et de graves méprises. Elles ne durent pas 14 ans, mais le temps a dû sembler bien long à ceux qui en ont été victimes. Et ce sont des histoires, 3 tout de suite, racontées par Claudia Prolongeau.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Emeline Hautecoeur, j'ai 27 ans et je vis en région parisienne, en Seine-et-Marne. J'ai eu Owen avec Eddy, qui a 27 ans également. On était au collège ensemble. Puis en fait, au cours d'une soirée, 10 ans après, on s'est retrouvés et puis on a commencé à sympathiser, on a commencé à se fréquenter d'emblée. On est devenus très très vite inséparables, donc on était toujours ensemble, on était très liés. Je suis tombée enceinte quelques mois plus tard. C'était une évidence, on ne s'est pas posé de questions. On s'est tout de suite imaginé avec Owen et puis je suis devenue maman le jour de mes 25 ans. Je m'occupais d'Owen et en fait, un nouveau changement de couche, je me suis rendu compte qu'il avait la cuisse qui avait gonflé. Il sortait du bain, donc je l'avais préparé, je lui avais mis sa couche, son pyjama, toutes ces choses-là. Quand on s'est rendu compte que sa jambe était gonflée, il avait un mois de vie. On est des jeunes parents à ce moment-là, on ne sait pas, on apprend au fur et à mesure des jours, on prend déjà nos marques, nous, les habitudes d'une vie familiale qui est complètement différente parce que du coup tout tourne autour d'un nouveau-né. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sûr de soi, on ne sait pas faire, on apprend. Et puis Owen ne pleurait pas, il était vraiment bien, il était apaisé, donc on n'a pas pensé à une douleur ou autre, on a pensé à une piqûre d'insectes. Et c'est vraiment à l'hôpital, en faisant une échographie, ils se sont rendus compte qu'il avait la jambe cassée. Et après, ils ont confirmé par radio, avant de nous transférer vers un autre hôpital, pour la prise en charge, la pose du plâtre et les examens complémentaires derrière. Alors, en fait, on est arrivé là-bas. On a attendu déjà 14 heures pour la prise en charge d'Owen avant que le plâtre soit posé. Les urgentistes étaient vraiment accusateurs dans leurs regards, dans leurs propos. Enfin, c'était limite insultant. Et après ça, il a été hospitalisé pour soi-disant des examens complémentaires. Donc bon, bah on a compris, on s'est pas plus posé de questions que ça, on a fait confiance. Mais dès qu'on est arrivé dans le service d'orthopédie, c'était les infirmières qui nous parlaient de maltraitance, hein, tout simplement, qui nous disaient, nous, quand on voit ça ici, c'est de la maltraitance et c'est pas autre chose. Et du coup, Owen sera hospitalisé pendant 10 jours, donc 10 jours d'examen à base de fond d'œil pour comprendre si c'était pas un enfant qui était secoué. Tous les examens pour maltraitance sont revenus négatifs, donc à partir de là, on a commencé à parler d'éventuelles maladies. On n'a pas été écoutés, on nous a dit que ça coûtait trop cher à la sécurité sociale. Et en fait, au bout de 10 jours d'hospitalisation, on était dans le bureau de la cadre de santé pour lui expliquer notre ressenti face à l'équipe médicale. Et à ce moment-là, mon conjoint reçoit un coup de téléphone, il sort de la pièce. Et au bout de 5 minutes que je le vois pas revenir, je sors et il m'explique, il me dit doucement pendant qu'il était au téléphone que l'aide sociale à l'enfance arrive et qu'ils viennent chercher Owen et qu'il est placé pour sa protection, quoi. Ce jour-là, ils sont arrivés, je crois, 10 minutes après. Elles sont arrivées avec un cosy, elles nous ont donné une feuille, nous expliquant que c'était l'ordonnance de placement provisoire rédigée par le procureur, et une autre feuille à côté pour que je puisse noter toutes les informations concernant Owen, donc son heure de coucher, ses biberons, s'il avait un doudou, quelles étaient vraiment ses habitudes de vie. Et à ce moment-là, elle m'explique qu'il ne faut pas que je pleure devant lui, il ne faut pas que je lui montre que moi je vais mal, que je le rassure et que je le laisse partir, qu'il faut que je lui explique la situation calmement parce qu'il comprend. Donc c'est ce que je fais, je le rassure, je lui dis que je vais essayer de faire tout mon maximum pour que la vérité se sache. Et à ce moment-là, après il s'en va et c'est la descente aux enfers, on ne sait pas où il va, on ne sait pas quand est-ce qu'on le reverra. On est effondré. Moi, je sais que je suis tombée au sol. J'ai pleuré tout ce que je pouvais pleurer. Ça a été, je crois, une douleur que je souhaite à personne de ressentir. Mon conjoint a fait le lendemain. Il a eu un ulcère. Le corps a subi le choc qui a été vraiment d'une violence inouïe, quoi. Alors à ce moment-là, Owen, on le voit. Donc ça sera à raison de 3 heures par semaine. C'est vraiment difficile pour avoir un lien avec son enfant. C'est très très compliqué. On est sous surveillance dans une pièce avec l'aide sociale à l'enfance qui fait des rapports à notre sujet sur notre rôle de parent, notre investissement, comment on s'y prend avec Owen, comment tout est détaillé en fait. Dès qu'on avait besoin par exemple d'une couche ou de quelque chose pour Owen, il fallait faire appel à quelqu'un qui était extérieur à la pièce pour qu'elle vienne le porter. On n'était pas laissé avec lui même 20 secondes, quoi. C'était dangereux. Pour eux, on était dangereux. Donc je sais que moi, ça a été très compliqué puisque du coup, j'étais une jeune maman, pas très sûre de moi. Je me suis beaucoup mise en retrait, ce qui m'a été reproché par la suite lors d'un entretien individuel avec l'aide sociale à l'enfance où ils m'ont expliqué que suite au fait que je sois distante pendant les réunions avec Owen, Owen ne me voyait plus comme sa mère. J'étais pour lui plus rien, ce qui a été vraiment difficile à entendre et à encaisser parce que ça restait mon fils et je voulais privilégier en fait mon conjoint qui avait beaucoup plus besoin de contact physique. Moi, je passais beaucoup de temps à les regarder tous les deux et de savoir qu'il était là près de moi, j'essayais de m'en contenter au mieux. Et suite à ça, on a eu le droit à des ouvertures plus larges. Donc il a pu venir à la maison tous les 2 jours. On avait une journée entière avec lui, donc c'était bien. Par contre, les départs étaient toujours très difficiles. De rentrer chez soi une fois qu'on l'a redéposé à sa famille d'accueil et de voir ses jouets, de voir tout ce qui lui appartient et que lui, il n'était pas là. L'absence, c'était vraiment un déchirement à chaque fois. On était tout le temps dans l'attente de ces rendez-vous et ils étaient toujours trop courts et ses absences étaient toujours trop longues. On a été mis sous médicaments pour dormir. Moi, j'étais mise sous médicaments pour m'alimenter parce que du coup, je pesais 54 kilos à son entrée à l'hôpital. Pendant le placement, je suis descendue à 36 kilos. J'étais dans un état physique qui était très, très difficile. Ça a été très compliqué pour moi et puis de pas savoir surtout, de pas savoir de quoi il souffrait, de savoir qu'il n'y avait pas de prise en charge derrière. La médecine, elle est là pour, à la base, prendre soin des gens, pas pour les détruire, quoi. Il se passera 2 mois. En fait, la généticienne de l'hôpital où on nous accusait de maltraitance a donné le dossier à Necker pour avoir un second avis suite aux prises de sang qui n'étaient pas bonnes. L'hôpital Necker a du coup donné son avis par écrit, disant qu'il y avait fragilité osseuse, qu'il fallait faire des examens complémentaires sur moi et Owen. Donc j'ai dû me rendre à nouveau dans cet hôpital où on nous a retiré Owen, ce qui était une charge psychologique très difficile. Et suite à ces prises de sang-là, ça a été confirmé qu'il y avait fragilité osseuse. Pendant 3 mois, tout le monde savait qu'il y avait une fragilité osseuse. Mais l'enquête n'avançait pas assez vite, mais il y avait le côté médical et le côté judiciaire qui se croisaient toujours. On n'avait personne vraiment qui disait « bon, maintenant, il faut que ça s'arrête et il faut que ça aille au plus vite ». Et la famille d'accueil d'Owen est partie en vacances. Suite à ça, il a été placé dans une autre famille d'accueil. Donc nous, on voit Owen en visite. Et on sent une odeur se dégageant de ses vêtements vraiment horrible, quoi. Ça sentait très fort. On le déshabille pour lui changer la couche et on voit que le plâtre s'est effondré sous l'urine, sous les excréments. C'était vraiment atroce. En plus, il s'est effondré au niveau de l'endroit où il y avait la fracture, donc c'était quand même pas anodin. Donc, suite à ça, le médecin de l'aide sociale à l'enfance nous conseille d'aller à l'hôpital. Donc, Owen est dans une voiture avec l'aide sociale à l'enfance. Nous, on y va par nos propres moyens de notre côté parce que c'est la procédure. Et à ce moment-là, arrivé à Necker, quand ils se rendent compte qu'on est entouré de l'aide sociale à l'enfance, l'infirmier me demande ce qui s'est passé pour qu'elle ait la jambe cassée. Et moi, pas sûre du tout, en me disant « on va encore m'accuser de choses que j'ai pas commises », je lui dis « je sais pas ». Il appelle son chef et son chef vient à notre rencontre et il me dit qu'il va tout faire pour trouver ce KON et que j'aurai mes réponses. Enfin, moi, j'étais surprise, j'étais sur la défensive et je me suis dit, mais enfin, il y a quelqu'un qui nous écoute, quoi, et qui nous prend pas à la légère et qui peut se dire, effectivement, ils peuvent être innocents. Ce qui, jusqu'à présent, n'était pas du tout le cas, quoi. Et après, on a été convoqués par l'hôpital Necker pour qu'ils rendent leur expertise. Et à l'expertise, à ce moment-là, elle a expliqué que c'était un événement de la vie quotidienne, le changement d'une couche suite à la fragilité osseuse et qu'on était pas maltraitant. La juge nous a dit qu'elle était désolée, qu'elle avait été obligée d'elle de se protéger au niveau de son statut et de protéger Owen parce qu'il n'y avait pas de certitude qu'on n'était pas maltraitant. Mais c'est vrai que ce qu'ils nous ont pris, ils ne le rendront jamais. C'est des mois de vie, c'est son premier Noël. Et ça a été très dur pour retrouver ma place du coup par la suite avec Owen. Il m'a fallu beaucoup de temps, il a fallu qu'on se retrouve tous les deux et qu'on apprenne vraiment à se connaître. Et ça, ça a été très difficile pour moi parce que j'étais dans un schéma où je me disais que c'était l'enfant de l'État et que moi, j'étais là juste pour veiller à son bien-être, mais que c'était pas mon enfant. C'est ce qu'on me disait toujours pendant le placement. Et on me dit, tant que vous comprendrez pas ça, il pourra pas rentrer. Votre enfant, il ne vous appartient pas. Quand Owen rentre à la maison, c'est vrai qu'on voit qu'il a changé. On essaye du coup de s'adapter, parce que c'est notre premier enfant. Donc du coup, on redécouvre notre place de parent sur un bébé de 4 mois, alors que quand il est parti, il en avait qu'un. Et avec Eddie, c'est vrai qu'on a réussi à se soutenir dans le placement. On n'a jamais eu d'hésitation, on ne s'est jamais porté d'accusation, on s'est soutenu énormément. On est d'ailleurs, je pense, tous les deux très fiers de ça. Mais les choses étaient vraiment différentes. C'est un passé qui nous rattrape toujours. C'est des traumatismes qui restent. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Et puis, on n'a pas eu la même façon de survivre à ça. Malgré nos sentiments, malgré l'affection qu'on avait l'un vers l'autre et tout ce qu'on avait pu vivre, on n'arrivait plus à vivre ensemble. Et c'était trop... On avait été trop traumatisés, en fait, par ce qu'on avait vécu. Et la séparation, du coup, était quand même le mieux à faire.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Éric Péclet, j'ai 44 ans. Je suis marié et père de 4 enfants. En novembre 2016, j'ai été accusé à tort du viol d'une élève de 4 ans d'une de mes classes. Et pour ça, j'ai fait plus de 4 mois de prison. Donc le lundi 14 novembre 2016, J'arrive sur une classe de gens lisses pour un remplacement. Et c'est le remplacement de la directrice qui est partie pendant 15 jours en formation. Ce début de remplacement se passe très bien. Sauf que mercredi soir, j'ai un coup de fil un petit peu curieux de mon inspecteur de l'éducation qui veut savoir si tout s'est bien passé en début de semaine, ce qui n'est pas très habituel, mais je lui dis que oui, tout s'est bien passé. Et le jeudi, il me rappelle pour me demander de passer le voir à l'inspection, et c'est là où je vais apprendre qu'une tache de sang a été retrouvée dans la culotte d'une petite, et ça concernait une journée de travail. Et cette journée qui était donc le lundi, je n'avais pas été seul sur le poste, on avait été deux enseignants, donc j'ai pu rassurer mon inspecteur de l'éducation en lui disant que s'il y avait le moindre soupçon, il n'y avait pas de possibilité d'imaginer que j'ai pu faire quoi que ce soit à un élève. Donc je suis ressorti un petit peu de cette entrevue mal à l'aise, parce qu'évidemment ça touchait quelque chose qui pour un enseignant est une vraie angoisse. C'est l'idée d'accusation de cet ordre-là, et j'ai toujours été dans ma vie extrêmement prudent. Je me suis jamais retrouvé seul avec un enfant, j'ai toujours eu des gestes où on pouvait pas voir d'ambiguïté. Et le jour même, au moment où je vais signer une suspension au rectorat de Dijon, eh ben je suis accueilli à la sortie du rectorat par deux gendarmes qui me mettent en garde à vue. La garde à vue va donc durer près de 48 heures, on va arriver jusqu'au samedi. Et puis au bout de la garde à vue prolongée, je suis emmené devant le juge, et puis j'apprends qu'on est en train de statuer sur le fait de m'envoyer ou pas en prison. Et alors là, c'est le monde qui s'écroule, parce que pas un moment, je m'étais imaginé qu'il était possible de faire de la prison. Pour moi, il y aurait une enquête. On peut pas aller en prison quand il n'y a aucun élément. Et si. Je rentre en détention le 19 novembre 2016. Et donc pendant des semaines, je vais affronter seul le cauchemar, parce que là c'est la fin du monde, hein. Pour moi, je me dis de toute façon on peut pas y avoir d'après, pas de coup de fil avec ma famille, je les revois pas avant longtemps au parloir, donc je suis juste dans une espèce de gamberge permanente, j'ai le mental qui tourne sans arrêt, on se refait toutes les journées, on essaie de retrouver un élément qu'on pourrait apporter, on essaie d'avoir prise sur quelque chose mais on a prise sur rien. J'enrage en prison en pensant que je suis dans la main de quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut de moi. J'ai plus aucun pouvoir, c'est une catastrophe. Et en février, donc un peu plus de deux mois après, je reçois un courrier de l'Éducation nationale qui m'apprend qu'on a décidé de mettre fin à mes salaires. Et par la suite, il va falloir que mon épouse et ma famille quittent le logement familial. Elle va pouvoir loger auprès de sa famille. Et donc, il y a vraiment un basculement qui a lieu à ce moment-là, quoi. Le gros choc qui va m'attendre aussi, ça va être une demande de libération refusée, bien évidemment, puisque le juge est toujours le même. Mais par contre, il y a un appel de cette demande. Et moi, je suis persuadé à ce moment-là que quand le dossier va passer entre les mains d'autres personnes que ce juge qui s'est fait son idée, que les personnes en question verront que les paroles d'accusation ne tiennent pas parce qu'elles sont changeantes, c'est-à-dire il n'y a rien, et il y a au contraire des éléments pour dire que j'ai été entouré en permanence. Donc je me dis quand une cour d'appel va voir ces éléments-là, mais évidemment que je vais sortir, pour moi ça fait aucun doute. Et quand j'apprends que la cour d'appel maintient la décision du juge et que je reste en prison, là, c'est un coup assez dur parce que je me disais que dans ce genre d'histoire, il y a des fusibles. Je pensais à Outreau, je me disais depuis, il y a eu des conclusions de tirer et que, évidemment, quand quelqu'un part du mauvais côté, il y a d'autres fusibles qui permettent d'arrêter la machine. Et quand je m'aperçois que je suis pas face à une personne, mais face à un système et que ce système va se tenir les coudes et que là, vraiment, je dis pas que je panique, mais au niveau du moral, ça devient très dur parce que je me dis, là, je ne sais pas quand je vais sortir. Et effectivement, il y aura d'autres demandes de libération qui seront à nouveau rejetées. Et finalement, au bout de 4 mois, Mon avocat, lors d'une rencontre, me dit, écoutez, j'ai plutôt des bonnes nouvelles, le ton a l'air de changer, le juge me demande en gros de faire une demande de libération prochaine. Donc, je me dis, bah, formidable. Et sur le coup, j'ai même du mal à comprendre qu'est-ce qui, d'un seul coup, alors que la pression était très forte sur moi, d'un seul coup, ça s'inverse. Je vais apprendre l'existence d'une expertise ADN qui est tombée et qui révèle l'existence de sperme dans la tache de sang de l'enfant, dans la tache du viol, et que ce sperme appartient à un membre très proche de la famille, et ce proche ayant été même le seul adulte à être resté seul avec l'enfant ce jour-là. Donc à ce moment-là, on a à peu près toutes les certitudes concernant ce qui s'est réellement passé. Et suite à ma libération en mars 2017, je vais être envoyé près de 500 km de ma famille pendant plus de 3 mois en contrôle judiciaire où je vais devoir pointer au commissariat d'Aix-en-Provence. Mais pour le coup, je suis à résidence chez mon frère. La vraie bonne nouvelle pour moi va avoir lieu en novembre 2017 puisque la cour d'appel de Dijon va enfin infirmer une décision du juge d'instruction en m'accordant le statut de témoin assisté, en levant toutes les charges, en disant qu'il n'y a aucune charge contre M. Péclet. Et là, c'est vraiment un soupir de soulagement, même si je sais que l'histoire n'est pas finie, que le véritable agresseur n'est pas encore mis en cause, parce que finalement, non seulement j'attends un non-lieu pour que l'histoire soit derrière moi, mais si c'est un non-lieu sans avoir mis en cause le véritable agresseur, je me dis, on va rester avec un flou dans cette histoire. C'est une affaire qui peut esquinter considérablement tout ce qu'il y avait de beau avant. Mettre de la salissure en vertu du fumier et faire qu'on ne s'en ressorte pas. Mais heureusement, j'ai l'impression qu'il y a des belles choses qui n'ont pas été esquintées. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Par contre, il est vrai aussi que c'est une histoire qui traumatise et que je me retrouve incapable de pratiquer le métier pour lequel j'étais fait. Maintenant, c'est fini, parce que je ne peux même pas m'imaginer dans une classe sans commencer à me dire, mon mental et ma... Je vais cogiter, je vais me dire, mais est-ce que demain on va venir me chercher parce qu'un élève se sera amusé à raconter un truc? C'est... Une fois qu'on l'a vécu et qu'on le sait, c'est juste plus possible. Donc, avec le rectorat, on a fait en sorte de me trouver un poste du côté du numérique éducatif. Ça me permet de travailler sans être au contact des élèves. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui va me manquer parce que le fait de pouvoir transmettre et de sentir surtout le moment où l'élève a compris grâce à nous quelque chose, ça n'a pas de prix. C'est un petit peu ça le salaire de l'enseignant. C'est de sentir que son action a permis à l'élève de lui ouvrir une porte dans la tête, de le faire avancer, de prendre confiance. Et ça, je sais que je l'ai perdu, ça.
Je suis Khaled Morsli. Je suis âgé de 45 ans. Je vis dans la banlieue lyonnaise. Je suis agent territorial au sein des sapeurs-pompiers du Rhône. Je suis marié. Je suis père de 4 enfants. Et je me fais surnommer Kiwi. En septembre 1995, dans la gare de Saint-Charles à Marseille, j'attends ma petite amie avec mon équipement de hockey sur glace, puisque j'étais donc joueur de hockey sur glace à cette période. Et je suis donc à ce moment-là interpellé pour un simple contrôle d'identité. J'étais âgé donc d'une 20aine d'années, un peu rebelle, et j'ai tendu dédaigneusement ma carte d'identité à l'agent de police. Celui-ci a jeté un coup d'œil furtif à ma carte d'identité et à ce moment-là, il a pris son takiwalki et a dit clairement « c'est bon, on le tient, c'est bon, on le tient ». Je me suis retrouvé plaqué au sol par des individus que je n'avais même pas vus au départ. On m'a roué de coups, on m'a menotté, on m'a traîné dans un véhicule de police. J'essayais de poser des questions, mais à chaque fois que j'ouvrais la bouche, je prenais une claque. On m'a emmené donc au commissariat central de Marseille. Et là, on m'a jeté dans une salle d'interrogatoire. On me demandait où étaient mes complices, qu'est-ce que je comptais faire sauter, qui je voulais tuer. Et j'ai pris conscience qu'on me prenait pour quelqu'un au moment où l'inspecteur que j'avais en face de moi m'a donné ce nom, en fait. puisque pour eux, j'étais quelqu'un. Je n'étais pas Khaled Morsli, jeune étudiant. Non, non, j'étais un dangereux terroriste. Et Khaled Kelkal est un terroriste originaire de Lyon. Il a commis entre 94 et 95 des actes terroristes sur toute la France, mais particulièrement sur Paris. Il a été l'auteur donc de l'attentat de Saint-Michel. Et aussi, il était l'artificier et le fabricant des bombes que l'on retrouvait à ce moment-là sur les différents attentats qui avaient eu lieu à cette période en France. Ils avaient trouvé une ressemblance. Ça a duré 3 heures à peu près. J'étais mis à l'écart dans une cellule de garde à vue où j'avais aucun contact. Je me suis dit, mais je suis foutu, je ne vais jamais ressortir d'ici. J'ai encore le bruit de la porte qui se ferme. Je n'avais plus rien, j'avais pas de papier, j'étais en slip dans cette pièce. Je me sentais vulnérable, quoi. Donc, j'étais à la merci de paroles d'un magistrat ou d'un commissaire. Et jusqu'à un moment donné où un policier gradé, il m'a semblé que c'était un commissaire, est entré dans la pièce. Il a dit, relâchez-le, c'est pas le bon. 5 heures après l'interpellation, on m'a pris, on m'a rejeté dehors et voilà, quoi. Je voulais plus sortir de chez moi, j'étais prostré pendant une semaine, en sachant aussi que j'avais le visage tout tuméfié, j'avais un œil au coquillard, la lèvre ouverte, les traces des menottes qui étaient encore au poignet. Et il n'était pas rare qu'après dans le quartier, on m'appelait Kelkal, ou à chaque fois qu'un truc tout bête, je me baladais dans la rue avec mon gros sac de hockey, on me disait « qu'est-ce que tu vas faire sauter aujourd'hui ?» ou autre, quoi. J'ai pris le surnom de Kiwi, donc pour ne plus avoir à donner mon identité complète, quoi. Il y a plus le Khaled, quoi. Je dirais pas qu'on a une mauvaise police en France. J'ai l'impression que j'ai été l'exutoire en fait de leur stress et de c'est un instinct animal qu'il y avait en eux. On peut pas l'expliquer, on peut pas le pardonner. Je pense pas que je puisse le pardonner un jour parce que j'avais beau essayer de leur poser des questions et de leur demander pourquoi ils me faisaient ça, et j'avais pas de réponse à chaque fois que je parlais. Plus je parlais, plus je me faisais battre. Donc, au bout d'un moment, on essaie de prendre sur soi, de se taire et d'encaisser les coups, quoi. Mais ça, je pense pas que ce soit pardonnable un jour. J'en veux simplement aux 5 agents qui m'ont interpellé, qui se sont défoulés sur moi, quoi. Parce que j'ai encore le poids de cette arme qui était sur mon front, sur ma tempe. Je me dis, mais quand tu vois ce qu'ils peuvent faire, quand ils ont un potentiel terroriste ou un potentiel bandit ou autre entre les mains, tu te dis, oui, t'es passé à côté de quelque chose, quoi. Tu t'es pas à l'abri de te prendre une balle pour rien, quoi.
Voy a partir de cero. Los últimos de la fila luego serán primero. Quién sabe si el villano luego será caballero. El traje solo tapa lo que se encuentra por dentro.
C'était Méprise, un reportage de Claudia Prolongeau, réalisé par Clémence Grosse. Merci à Emeline, Eric et Khaled. Merci aussi à Vanessa de l'association Adikia. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. C'est Nino Lima, notre stagiaire. Merci aussi à Élise Le, au passage. Se rima y por esta boca se come mi boca con mi rima y ya no hay quien me la controle. Es parte del todo y de mi mejor rol. Okay, luego para partir en quinta mi estanque se llena solo cuando le pongo tinta. Ya no freno, solo acelero de forma distinta. Lo que te capacita es la potencia que te habita.
Empezaré del comienzo.